Vous écoutez, on lit pour vous.
L'effet Gaston. Un texte de Mario Girard, paru le 8 mars 2026 dans la presse. Tout cela a commencé il y a environ 3 ans. Un dindon sauvage a été aperçu à l'île des Sœurs. Comment est-il arrivé sur ce territoire relié au centre-ville et à la rive sud par les viaducs de la 10 et de la 15, de même que par le pont Samuel de Champlain et l'Estacade? A-t-il emprunté clopin-clopant l'un de ces passages? Les dindons sauvages peuvent parcourir de longues distances en marchant. A-t-il survolé le fleuve entre Verdun et Lille? A-t-il pris un taxi Uber un samedi soir de brosse en se trompant d'adresse? Tout cela demeure un mystère. Rapidement, les citoyens l'ont surnommé Gaston. Sa présence est vite devenue une source d'intérêt et de préoccupations sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a vu Gaston récemment? Ça fait une semaine que je n'ai pas de ses nouvelles. Il va bien, il dort près d'une piscine. Comme un mystère arrive rarement seul, Gaston s'est soudainement retrouvé avec une certaine Gastonne. Et ce qui devait arriver arriva. Gastonne est devenue enceinte. Au printemps 2025, quelle ne fut pas la surprise des résidents de découvrir Gastonne, suivie d'une traînée de dindonneaux. La petite famille traversait les rues en bénéficiant d'une protection hors du commun. Même le brigadier scolaire de mon quartier stoppait les voitures pour laisser passer Gastonne et ses petits. Curieux d'en savoir davantage, je suis allé lire sur ces bêtes. J'ai appris que la pendeloque des mâles, cette protubérance qui leur pend au bec, sert à attirer les partenaires. Les femelles préfèrent les mâles avec une longue pendeloque. Celle-ci peut s'allonger et se rétracter. Je m'arrête ici avec cette description. Bon, bien sûr, certains d'entre vous diront que ces dindons sont une nuisance et qu'ils peuvent causer des problèmes à long terme, leur reproduction allant à un bon rythme. Mais il faut savoir que cette espèce s'est répandue dans le sud du Québec au cours des dernières années en raison des hivers plus doux, bref, à cause du réchauffement climatique. Et qui sont les responsables de ces changements? Nous. L'autre raison qui explique leur présence est la destruction de leurs habitats naturels. Les dindons sauvages sont privés de nourriture à cause des nouvelles méthodes d'agriculture et de l'étalement urbain. Et qui sont les responsables de cela? Encore nous. Bref, cette cohabitation comporte des défis assez grands pour que le ministère de l'Environnement nomme un coordonnateur provincial de la gestion du dindon sauvage. En effet, l'augmentation des populations est en grande partie due à l'humain, m'a confirmé Maxime Lavoie. Ce dernier recommande de les laisser en paix et de ne pas les nourrir. Au départ, le dindon est peureux. Il ne faut pas l'habituer à l'homme. Si je vous parle de ça, c'est que je suis fasciné de voir que la présence de ce dindon a quelque chose de bénéfique, je dirais même de thérapeutique. Cette distraction est à mettre au rayon des petits riens de la vie qui font du bien. Et Dieu sait qu'on a besoin plus que jamais de ces petits riens. Après une éprouvante période de pandémie, nous trempons dans un climat de tension et de menace qui nous fait douter de retrouver un jour une forme de quiétude. C'est fou comme j'entends autour de moi des gens dire que leurs enfants ou leurs petits-enfants ne connaîtront pas l'apaisement et l'indifférence que les générations plus vieilles ont vécu. À cela, je réponds que toutes les sociétés, quelle que soit l'époque ou l'endroit, ont eu leurs défis. Reste que notre époque est marquée par une impression de dépossession du monde et une incapacité à contrôler les choses. Ce phénomène est lié en grande partie à l'environnement technologique dans lequel nous vivons. Cette rupture avec la réalité, dont nous sommes les artisans, est le principal enjeu. Je lisais les résultats d'un grand sondage Ipsos réalisé dans 43 pays. On a demandé aux gens à quel moment ils auraient préféré vivre. Pour 66 % d'entre eux, c'est le moment présent. Et aussi, dans les années 1980, une décennie où notre plus grande préoccupation était de ne pas manquer de gel capillaire le samedi soir. C'est ce que le sociologue français Gérald Bronner appelle la nostalgie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de l'avenir de la planète, mais cela nous indique que cette volonté à s'accrocher au temps présent permet d'encaisser les coups. Je reviens à Gaston et au bienfait des petits riens. Nous éprouvons parfois une forme de culpabilité à vivre des petits plaisirs. C'est une erreur. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces remèdes de l'ordinaire pour braver la tempête. Courage, le printemps s'en vient. C'était L'effet Gaston, un texte de Mario Girard, paru le 8 mars 2026 dans la presse.
Le Québécois Gilles Brassard remporte le prix Turing et fait un pied de nez à Trump. Un texte de Philippe Mercure, paru le 18 mars 2026 dans la presse. Quiconque l'a déjà rencontré peut en témoigner. Avec son mélange d'intelligence et d'excentricité, Gilles Brassard est un génie. Ses pairs viennent de le reconnaître en lui accordant la plus haute distinction mondiale en informatique, le prix Turing. Le chercheur québécois a inventé deux concepts semblant tout droit sortis de la science-fiction, la cryptographie quantique et la téléportation quantique. Ce prix Turing, le professeur d'informatique à l'Université de Montréal l'attendait depuis des décennies. Pourtant, dans une entrevue virtuelle qu'il m'a accordée avant l'annonce officielle, l'homme de 70 ans lance un pavé dans la mare. Il ne s'en rendra pas à San Francisco en juin pour recevoir son prix. Tant que le petit dictateur est au pouvoir, je ne vais aux États-Unis sous aucun prétexte, même pas pour ça, lance-t-il dans une allusion évidente à Donald Trump. Je vais être là sur Zoom, mais il est hors de question que je mette les pieds dans ce pays qui nous a déclaré la guerre. Gilles Brassard partage les honneurs avec le physicien américain Charles H. Bennett. Le prix, qui vient avec une bourse de 1 million de dollars américains, leur est remis pour leur rôle essentiel dans l'établissement des fondements de l'informatique quantique et la transformation des communications sécurisées et de l'informatique, a déclaré l'Association for Computing Machinery, ACM, qui le décerne. Détrompez-vous. Même s'il boudera la cérémonie officielle, Gilles Brassard se dit très, très, très heureux de l'honneur qui lui est fait. Je suis informaticien et ce prix est remis par mes pairs informaticiens. Pour moi, c'est le prix mondial qui a le plus de signification, dit-il. Le nom de Gilles Brassard circule depuis un moment pour le prix Nobel de physique. Sans fausse modestie, le chercheur québécois affirme qu'il mérite aussi ce prix et en parle même au futur plutôt qu'au conditionnel. « Quand j'aurai le Nobel, je ne serai pas mécontent, dit-il, mais le Turing a plus de valeur pour moi. » Gilles Brassard, qui est rentré à l'université à 13 ans, fait penser à un curieux mélange de hippie et de savant fou, et le rencontrer est toujours un événement marquant. Il y a un an, il m'avait reçu à l'Université de Montréal en sandales Birkenstock et m'avait montré son bureau. L'endroit est si encombré de papiers et de boîtes qu'il est complètement inutilisable, poussant le chercheur à travailler dans son laboratoire. Cette fois, je le vois apparaître dans mon écran d'ordinateur avec une joue sévèrement balafrée. « J'ai déboulé un escalier, explique-t-il. Mais pas par en bas, ce qui aurait été plus grave, je l'ai déboulé par en haut. » Si vous n'êtes pas trop sûr de comprendre, c'est normal. Le cerveau de Gilles Brassard jongle avec des concepts qui échappent au commun des mortels. Ses recherches le montrent bien. Le génie de Gilles Brassard et de Charles Bennett fut de comprendre que la physique quantique, cette science qui décrit le comportement des objets à l'échelle de l'atome, peut être utilisée pour transmettre de l'information. La rencontre des deux hommes est elle-même entourée d'une certaine légende. Brassard aime raconter que Bennett l'a abordé alors qu'il se baignait au large d'une plage de Porto Rico. « Un complet étranger nage vers moi et me dit comme ça, sans raison apparente, qu'un de ses amis a trouvé comment utiliser la mécanique quantique pour fabriquer des billets de banque impossibles à contrefaire, raconte-t-il. » Gilles Brassard finira par m'avouer que cette version de l'histoire est rigoureusement exacte, mais incomplète. La rencontre s'est produite lors d'une conférence internationale d'informatique. Et si Brassard ne connaissait pas Bennett, ce dernier avait entendu parler des intérêts de recherche du Québécois et pensait trouver en lui un interlocuteur enthousiaste. Il ne s'était pas trompé. Au début des années 1980, le physicien et l'informaticien combinent leurs expertises pour imaginer de nouvelles applications de la physique quantique. Après les billets de banque impossibles à contrefaire, qui se butent à certains obstacles pratiques, les deux hommes découvrent que les propriétés quantiques permettent de transmettre des messages secrets de façon fondamentalement inviolable, peu importe la technologie et la capacité de calcul que posséderait un éventuel espion. Dans son communiqué annonçant le prix Turing, l'Association for Computing Machinery décrit cette découverte comme un moment transformateur de l'histoire de l'informatique. Charles H. Bennett et Gilles Brassard ont fondamentalement changé notre compréhension de l'information elle-même, dit le président de l'ACM, Yanis Loanidis. Leurs idées ont repoussé les limites de l'informatique et ont donné lieu à des décennies de découvertes dans toutes les disciplines. À l'époque, pourtant, Gilles Brassard n'a pas nécessairement l'impression d'avoir lancé une révolution. On ne prenait pas ça au sérieux plus qu'il faut, dit-il. C'était surtout un amusement. D'une part, le concept est alors purement théorique. D'autre part, il est loin d'être clair qu'il est utile. Les algorithmes de cryptographie conventionnels semblent à l'époque largement suffisants pour assurer la sécurité des communications sur l'Internet. Pour montrer que leur idée n'est pas qu'un délire de théoricien, Brassard et Bennett mobilisent trois de leurs étudiants et réalisent une expérience qui montre la transmission d'un message par cryptographie quantique sur une modeste distance de 32 cm. On était cinq théoriciens purs et durs. C'est un miracle qu'on n'ait pas mis le feu à la baraque, raconte Gilles Brassard. Quelques années plus tard, le mathématicien américain Peter Shor découvre que de futurs ordinateurs quantiques ne feraient qu'une bouchée des algorithmes de cryptographie classique. L'arrivée de ces superordinateurs compromettrait la sécurité de toutes les informations échangées sur l'Internet. Cette démonstration relance l'intérêt pour la cryptographie quantique, d'autant plus que le développement de l'ordinateur quantique progresse rapidement. Aujourd'hui, la Chine possède un réseau de cryptographie quantique qui s'étend sur des milliers de kilomètres, et l'Union européenne travaille à son propre réseau. Entre-temps, Gilles Brassard invente en 1992 un autre concept qui frappe l'imaginaire, la téléportation quantique, de concert avec le Québécois Claude Crépeau. Fait assez incroyable, Gilles Brassard est le deuxième professeur de l'Université de Montréal à obtenir le Turing après le spécialiste de l'intelligence artificielle Joshua Bengio en 2018. Les chercheurs de calibre mondial comme lui sont des trésors pour le Québec. Il faut célébrer leur victoire et donner tous les moyens aux plus jeunes qui les regardent de pouvoir suivre leurs traces. C'était « Le Québécois Gilles Brassard remporte le prix Turing et fait un pied de nez à Trump », un texte de Philippe Mercure, paru le 18 mars 2026 dans la presse.
La deuxième vie des organes donnés. Un texte de Caroline Monpetit, paru le 27 décembre 2025 dans Le Devoir. Joanne Tétrault-Lassonde était arrivée au bout de sa vie il y a 12 ans, lorsque son foie, épuisé par un cancer et une hépatite chronique qu'elle portait depuis 27 ans, a cessé de fonctionner. Puis, du bout de la chaîne mise en place par Transplant Québec, est arrivé un don, un organe pour remplacer le sien. Depuis, elle a vu naître ses trois petits-enfants et elle accompagne des greffés du foie avant et après l'opération qui leur rend la vie. Ce foie, elle l'a reçu d'un donneur anonyme. C'était un 12 juin et chaque année, à cette date, elle célèbre cet anniversaire. Dans la maison de Roxborough, où elle vit avec son mari musicien, Mme Tétrault-Lassonde raconte « Quand on reçoit l'organe, on est dans la joie, la reconnaissance, mais ça ne fait pas si longtemps que j'ai compris qu'à l'autre bout de la chaîne, c'est une autre histoire. » En tant que patiente accompagnatrice de Transplant Québec, elle remarque que chaque greffé a une relation différente avec l'organe reçu. Il y en a qui donnent des noms à leur foie, raconte-t-elle. Depuis 2011, les Québécois peuvent autoriser le prélèvement et le don de leurs organes en cas de décès en apposant une signature sur un autocollant placé sur l'arrière de leur carte d'assurance maladie. Mais, une fois le décès survenu, la famille doit encore avaliser le choix du donneur. Des choix difficiles. Pour la mère de François Rochon, qui a combattu la sclérose en plaques durant plusieurs années avant de demander l'aide médicale à mourir, accéder aux volontés de son fils n'était pas simple. C'est que la décision de donner des organes en cas de décès oblige notamment les chirurgiens à les prélever le plus rapidement possible sur la dépouille, ce qui limite le temps passé par les proches autour du défunt. C'était difficile, se souvient Nathalie Rochon, la sœur de François, parce que tout se faisait à l'hôpital. Il ne pouvait pas avoir les soins de fin de vie à la maison à cause des dons d'organes. Les volontés de François Rochon étaient formelles. Il souhaitait que son cerveau serve à la science et faire don de ses organes aux personnes qui en avaient besoin. Après sa mort, trois personnes ont bénéficié des organes de François, l'une héritant de ses poumons et deux autres se partageant ses reins. De savoir que trois personnes vivent grâce à ça, ça fait juste ajouter à tout ce qu'il leur a fait avant de partir pour donner un sens à son existence. Pour moi, oui, ça a été une révélation, le don d'organes. J'ai compris l'impact que ça pouvait avoir dans la vie de plein de monde, raconte Nathalie Rochon. La chaîne humaine. Entre les donneurs et les receveurs d'organes, toute une chaîne de personnes s'anime, celle du personnel de Transplant Québec d'abord, qui accompagne les uns et les autres dans le processus, mais aussi celle des corps policiers, des ambulanciers et des chirurgiens qui assurent le prélèvement et la greffe. Toute une chaîne pour qu'un miracle opère. Tous les ans, à Sherbrooke, l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus réunit ses acteurs pour célébrer les familles de donneurs décédés et les donneurs vivants. Cette cérémonie annuelle a été créée il y a 34 ans par un ancien policier, Richard Tremblay. Ils remettent aux familles des donneurs et aux donneurs vivants une médaille d'honneur avec un ruban puis des fleurs, raconte Joanne Tétrault-Lassonde, qui est revenue très impressionnée de l'événement il y a 2 ans. Madame Tétrault-Lassonde admet avoir longtemps été troublée par le fait que le don qui a prolongé sa vie a forcément émergé d'un événement malheureux, d'un décès. Il y avait ma préoccupation du fait que quelqu'un meurt pour que je vive. Mais d'assister à cette cérémonie, j'appelle ça remonter au début de la chaîne du don, ça m'a fait du bien. Ça fait 2 ans et j'y repense encore. Je revois cette dame qui arrive avec une photo de son bébé et un ballon à l'hélium. Elle va recevoir sa médaille, mais c'est son bébé qui a été le donneur. Et elle était bien sereine. Transplant Québec ne gère que les prélèvements d'organes sur des donneurs décédés, mais des organes ou des parties d'organes, reins ou foie, peuvent aussi être prélevés sur des donneurs vivants. A priori, les donneurs et les receveurs ignorent leur identité respective. Il arrive cependant que des receveurs cherchent à entrer en contact avec des donneurs ou vice-versa. Pour ce faire, il faut présenter une demande spécifique avec les risques que cela comporte. Joanne Tétrault-Lassonde raconte l'histoire d'une jeune greffée du poumon qui a retrouvé la famille de sa donneuse, mais cette famille aurait ensuite voulu que la greffée remplace auprès d'eux leur fille disparue, participe aux fêtes de famille. Elle ne voulait pas qu'une deuxième famille vienne constamment pleurer sur son épaule, dit-elle. Il y a des gens qui sont obsédés par l'idée de savoir de qui vient leur greffe, qui vont même sur les réseaux sociaux en donnant la date de leur greffe. Moi, je ne ferai pas ça. La famille de François Rochon n'a pas voulu non plus connaître les noms des personnes qui ont survécu grâce à ses organes. Je sais qu'ils sont vivants, raconte Nathalie Rochon. Mais la conscience du processus du don d'organes ne s'éteint pas pour autant. Joanne Tétrault-Lassonde s'est enquise récemment des possibilités de faire don de son cœur à son décès. « Je ne peux pas donner de sang parce que je prends des médicaments anti-rejet, mais mon cœur, il est censé être très bon. » Mais on m'a dit « Non, vous êtes trop vieille. » J'ai 69 ans, bientôt 70. Le don d'organes en quelques chiffres. Source, Transplant Québec. En 2024, 206 donneurs ont permis de transplanter 644 organes. En moyenne, 3,1 organes sont transplantés par donneur. Au moins 4 Québécois sur 10 sont inscrits au registre des consentements aux dons d'organes et de tissus. Le temps d'attente moyen pour recevoir un organe est désormais de 49 jours pour des poumons et de 156 jours pour un cœur. C'était « La deuxième vie des organes donnés », un texte de Caroline Monti, paru le 27 décembre 2025 dans Le Devoir.
Veuillez déposer votre tête dans ce piège. Une chronique de Paul Journet, publiée dans la presse du 17 mars 2026. Du point de vue de Donald Trump, c'est une offre que les autres pays ne peuvent pas refuser. L'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz pour que reprenne le transport maritime du pétrole, de gaz et d'autres biens. Et pourtant, il la refuse. Notamment parce qu'ils n'ont aucune raison de le faire. Le président a exhorté la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France et le Royaume-Uni à escorter les navires dans cet étroit corridor où transite le cinquième du pétrole mondial. Le ministre de la Défense du Canada, David McCunty, a dit ne pas avoir l'intention de se joindre à cette campagne. Il n'en a vraiment pas la capacité non plus. Nous avons 12 frégates vieillissantes dont seulement 3 sont opérationnelles. D'autres pays pourraient en théorie aider les États-Unis, mais pour eux, les dangers sont immédiats alors que les gains restent hypothétiques. Pour la politique partisane, la réflexion est simple. Cette attaque des États-Unis et d'Israël est impopulaire. Même les États-Uniens sont contre. Aucun chef de gouvernement n'a intérêt à se rallier à cette cabale. Pour la diplomatie, c'est également assez simple. Les États-Unis n'ont pas consulté leurs anciens alliés avant de lancer l'attaque à la fin de février. Ils ne les ont pas non plus invités. Ils n'étaient pas prêts à contrer cette prévisible perturbation du détroit par l'Iran. Et ils n'utilisent pas toute leur capacité de le faire. Pourquoi accomplir la sale besogne à leur place? Pour éviter le pire, répond Trump, il menace de conséquences « very bad » pour l'OTAN. Or, l'Alliance se prépare à un monde où les États-Unis seront un membre déstabilisateur qui entretient de vagues projets d'annexion du territoire d'un État membre comme le Danemark. Bref, les États-Unis ont déjà arrêté d'être fiables. La Chine est dans une situation différente. Elle est proche de l'Iran, dont elle est le principal acheteur de pétrole. Dans un certain nombre de pays asiatiques, le télétravail est encouragé depuis le début de la guerre et l'énergie, y compris la climatisation, est rationnée. La Chine souhaite donc la désescalade de ce conflit. Mais elle ne doit pas être ébranlée par la plus récente menace de Trump, reporter la rencontre avec le président Xi Jinping. Et surtout, elle ne veut pas se liguer avec Washington. Au contraire, elle n'est pas déçue de voir les États-Unis s'y brûler. Mais le principal argument pour refuser l'offre, entre guillemets, de Trump est économique et sécuritaire. L'Iran mène une guerre asymétrique, comme l'a expliqué l'ancien vice-amiral canadien Mark Norman à la CBC. La simple possibilité que les transporteurs craignent une attaque est en soi une petite victoire pour l'Iran. Cela bloque le trafic et fait grimper les prix. Cela remplit son objectif, faire payer les États-Unis et leurs alliés du Golfe Persique. Et le danger n'est pas que psychologique. Les attaques y sont un risque réel. Lors de la guerre contre l'Iran, en 1988, une mine de 1 500 $ avait suffi pour endommager la frégate américaine U.S. Samuel Roberts. La facture, environ 96 millions. Des mines ont recommencé à être posées, rapporte le New York Times. Et il y a aussi les possibles attaques d'essaims de drones. La semaine dernière, des transporteurs ont demandé l'aide de la U.S. Navy. Elle a refusé. Trop dangereux. Mais si ces braves Français, Anglais et Chinois veulent le faire, ils sont les bienvenus. En principe, l'opération serait défensive, mais il ne faudrait qu'une attaque, même involontaire, pour que ces pays soient aspirés, malgré eux, dans le conflit. De toute façon, il est un peu tard. Les assureurs ont déjà haussé leur prime de 50%, rapporte le groupe Chatham House. Beaucoup d'entreprises et d'équipages refusent de prendre le risque d'y naviguer, s'ils le peuvent. Les escortes militaires ne suffiront pas à réduire ces primes. Les prix du pétrole et des fertilisants ne reviendront pas à leur niveau antérieur non plus. Le problème n'est pas que la navigation. C'est le conflit lui-même qui incite l'Iran à perturber les routes commerciales, navigables et autres, et à attaquer des infrastructures des pays voisins, y compris en Arabie Saoudite et au Qatar, qui font transiter la majorité de leurs énergies fossiles par oléoduc. Alors, à qui la chance? Le ministre McGuinty n'a pas semblé fermer tout à fait la porte. C'est à voir. Comme je vous ai dit, on suit de très près la situation, et s'il y a des changements, on aura plus à dire là-dessus, a-t-il dit lundi, fin de citation. Difficile de juger cette déclaration sibylline. Cela ressemble à un non enrobé de politesse pour ne pas vexer Trump. On ignore ce que fait le Canada en coulisses avec ses alliés de l'OTAN pour faciliter la désescalade. Mais chose certaine, c'est là que réside sa vraie et modeste capacité d'influence. Fin de cette chronique de Paul Journet, titrée « Veuillez déposer votre tête dans ce piège », publiée dans la presse du 17 mars 2026.